Ajuster au plus près les moyens de la collectivité en période financière difficile, les élus de la province sud étudiaient ce matin la première délibération modificative du budget 2025. Budget primitif 2025 adopté hier par le conseil municipal de Nouméa. En recul de 6% par rapport à l'an dernier, c'est un budget prudentiel et responsable mais engagé, a commenté le maire de Nouméa. Emmanuel Macron a reçu Volodymyr Zelensky à l'Élysée. Il confirme la poursuite de l'aide de la France qui va débloquer 2 milliards d'euros pour fournir des équipements militaires à Kiev. Un déplacement qualifié d'historique, Jordan Bardella et Marion Maréchal sont en Israël, invités par le gouvernement Netanyahou à participer à un colloque sur l'antisémitisme. Et puis du tennis dans la page sport, Arthur Fils brille à Miami en 8e de finale du Masters 1000. Le Français a battu le numéro 2 mondial allemand, Alexander Zverev. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Le marché de l'emploi est bouleversé, la situation s'est gravement dégradée depuis les émeutes insurrectionnelles. Quels dispositifs sont mis en place pour relancer le marché de l'emploi ? Où en est la question de la prise en charge des différents régimes de chômage ? Nous en parlerons dans les Jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu, juste à la fin de ce journal. Nous serons en compagnie de Christopher Gigès, membre du gouvernement en charge de l'emploi, de Tony Dupré, le vice-président de la COGETRA, et de Julien Barras, le président de la commission emploi-formation du MEDEF. Un Jeudi de l'économie Radio Rythme Bleu à retrouver. Vous trouvez donc dès la fin de cette édition. Journal que nous ouvrons par l'actualité institutionnelle. Les élus de la province sud sont réunis depuis 9h avec notamment à l'ordre du jour de cette séance l'examen de la délibération modificative numéro 1 du budget de la province sud pour l'exercice 2025. L'hôtel de province où l'on retrouve Lionel Sabot.
Oui, Jean-François, cette décision modificative va permettre un ajustement du budget 2025 qui a été voté, il faut le rappeler, le 12 décembre dernier par la collectivité. Cette décision modificative intègre la reprise anticipée du résultat 2024 et tous les ajustements nécessaires face aux conséquences des émeutes. Elle prend également en compte le soutien attendu de l'État qui interviendra sous forme de compensation des recettes de répartition plutôt que sous la forme d'une contribution exceptionnelle telle que cela avait été inscrit initialement lors de l'adoption du budget primitif 2025. En chiffres, cette décision modificative représente 7,7 milliards de reprises anticipées du résultat 2024, 6,4 milliards d'ajustements de la fiscalité de répartition et 258 millions de recettes nouvelles. Cette décision modificative a été longuement débattue. Si tous les élus se satisfont bien évidemment de ce surplus entre guillemets de budget pour la collectivité, c'est le fléchage des sommes sur tel ou tel poste qui a fait débat ce matin. L'exécutif provincial a choisi de flécher un peu plus de 2 milliards pour de nouveaux investissements, 1,7 milliard sur l'économie pour la mise en place de nouvelles mesures économiques en faveur notamment des patentés, des jeunes, mais aussi de la santé, ou encore 500 millions pour soutenir les communes de la province sud. Après un long débat où chacun a pu exprimer sa position, la délibération a finalement été adoptée. Les élus indépendantistes, les élus de l'Éveil océanien et de Calédonie Ensemble se sont abstenus. Cette séance se poursuit en ce moment avec l'examen de textes concernant les règles d'urbanisme applicables en province sud, mais aussi les élus prendront connaissance du rapport de la Chambre territoriale des comptes concernant les mesures d'adaptation prises face au risque du trait de côte. Depuis l'hôtel de la province sud à Nouméa, Lionel Sabot, RRB.
Merci Lionel. L'actualité budgétaire, c'est aussi l'adoption hier par le conseil municipal de son budget principal 2025. Un budget de 25,8 milliards de francs qui est en baisse de près de 6% par rapport à l'an dernier, Charlotte Coulson.
Mais comme toutes les autres communes, la ville de Nouméa accuse une perte importante de recettes, 4 milliards en moins sur 4 ans, ce qui l'amène à revoir à la baisse ses dépenses. Les élus ont notamment relevé le manque de visibilité des communes pour construire leur budget 2025, alors même qu'il doit être adopté avant le 31 mars. En bref, c'est un budget prudentiel et responsable, mais engagé, selon le maire de Nouméa, Sonia Lagarde.
C'est un budget extrêmement prudentiel, c'est un budget de restriction, parce que nous sommes très dépendants de la Nouvelle-Calédonie, donc on voit bien que en termes de recettes fiscales, de santé médicinale, il prévoit 33% de baisse. Voilà. Sur le FIP, on n'arrive pas totalement à ce qu'on percevait en 2023, qui est année de référence, puisqu'on était à 4,8 milliards par an. Là, on est descendu à 3,6 milliards. Et donc, la Nouvelle-Calédonie, grâce à un prêt de l'État, va nous faire monter un petit peu les dotations. Mais rien d'exceptionnel. Donc, entre 2022, 2023 et 2025, on a quand même 4 milliards en moins dans nos budgets. C'est extrêmement difficile. Et aujourd'hui, on a un budget à l'équilibre grâce aux 5 milliards qui nous ont été donnés par l'assureur. Sinon, nous avions un budget, on n'aurait pas pu le voter, il était en déséquilibre.
Et malgré ces réductions drastiques, il n'est pas question pour la municipalité d'avoir recours à des licenciements. Le maire de la ville explique avoir mis en place en 2018 un programme de maîtrise de la masse salariale. Sur 6 ans, près de 165 postes ont déjà été libérés, soit une économie de 258 millions de francs. Cette année, c'est donc le budget dédié aux investissements qui a été réduit. Compte tenu de la baisse du nombre d'écoliers dans la commune, les établissements scolaires ne feront pas partie du programme de reconstruction. Mais comme l'explique Sonia Lagarde, les chantiers débutés en 2024 sont tout de même maintenus.
En investissement, on est sacrément descendu, hein, puisque la moyenne sur les 11 dernières années de mon mandat de maire, on investissait entre 5,5 milliards et 6 milliards par an. Là, nous n'avons plus les moyens d'investir autant et donc on est sur 1,4 milliard. Et plus 1 milliard qui est sur les investissements que font les services pour faire en sorte de maintenir notre patrimoine, c'est-à-dire les structures municipales, les écoles, etc. Mais c'est dramatique, 2 milliards. Comment voulez-vous qu'on soutienne l'économie calédonienne et les entreprises quand on a un budget d'investissement aussi bas? On met l'accent sur les travaux qui ont déjà commencé en 2024. Les travaux Jaurès, qui sont des gros travaux d'assainissement. On a la route du Port des Pointes, il y a la place Birakem aussi. Voilà, ce sont des travaux qui étaient déjà engagés et qu'il faut qu'on termine.
Sonia Lagarde qui ajoute que si les dotations aux collectivités devaient encore être réduites dans les mois à venir, la ville maintiendrait difficilement son fonctionnement au-delà d'octobre 2025. Pour l'heure, c'est donc ce budget principal de 25,8 milliards qui a pu être adopté. Les groupes Génération Nouméa et celui de l'éveil océanien Nouméa C'est Vous, siégeant au conseil municipal, se sont abstenus lors du vote. Le groupe FLNKS Unité Pays a quant à lui voté contre.
Et puis deux jours pour réfléchir à l'avenir économique et social de la Nouvelle-Calédonie. La Fédé organise jusqu'à demain un colloque à la CCI où de nombreux experts et représentants de la société civile vont se succéder. Il s'agit de chiffrer et d'établir des fiches d'impact des émeutes de l'an dernier pour pouvoir proposer aux collectivités et institutions un plan de refondation sociale et solidaire ou PRSS. La Fédé estime que le plan proposé par le gouvernement, le P2R, ne prend pas assez en compte la lutte contre les inégalités sociales, économiques et fiscales. Et ce projet a pour vocation de se transformer au fil des interventions, explique le secrétaire général de la Fédé, Steve Territeaou, en ouverture des travaux.
Le principe de ce colloque, c'est de mettre à plat l'ensemble des inégalités et de récupérer également, dans le cadre de nos propositions, tous les nouveaux sujets qui pourraient être mis sur la table. Notamment, on parlait de commandes auprès de l'ISEE qui sont fondamentales pour établir le nouveau modèle économique. On a l'ISEE qui parlait de la pauvreté autre que monétaire, donc on parlait de la pauvreté alimentaire. On a un exemple, la pauvreté des familles monoparentales. Donc oui, c'est un échange nourri, des échanges qui devront être pris en compte dans les conclusions qui seront émises demain. Oui, donc un fort échange entre le public et les différents intervenants.
Le colloque s'est ouvert ce matin en présence notamment des autres syndicats du territoire qui ont répondu à l'invitation de la Fédé. Les interventions devraient se succéder jusqu'à demain après-midi. Une restitution sera faite en clôture de ce colloque.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure de votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu avec d'abord la réponse à notre question d'hier et 53% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS pensent que la relance du dispositif bouclier qualité-prix peut permettre de lutter contre la cherté de la vie. Ils sont 47% à penser que ce ne sera pas le cas. Et puis voici notre question du jour. Approuvez-vous l'idée d'une plateforme de pétition citoyenne lancée par le CESE? Si vous l'approuvez, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. Il est 11h39, la première pause de ce journal. On se retrouve dans un instant pour le reste de l'actualité sur le territoire.
Toute l'info en trois lettres, RRB. Propriétaire de Mitsubishi L200, Nissan NP300, i6 ou Qashqai. Du 17 mars au 12 avril chez Calais-Pneu PK4 et Koné, achetez 3 pneus Apollo, le 4e est offert ou profitez de 25% de remise. Offre valable sur dimension signalée et stock limité. Plus d'infos au 41 31 41 ou sur Facebook.
La Cave du Château, deux adresses pour une expérience unique. Retrouvez-nous au complexe Château Royal, 140 promenade Roger Larocque en Svata, et complexe Le 4, 186 rue Jacquier-Caoué au 4e kilomètre. Deux adresses pour mieux vous servir et vous conseiller pour tous vos moments et toutes vos envies. Consultez toutes nos références sur notre site lacavduchâteau.nc. Retrouvez nos jours et horaires d'ouverture sur notre page Facebook La Cave du Château.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
De nombreux éleveurs réunis à Nessadiou ce matin où la Chambre d'agriculture et de la pêche organisait sa vente annuelle de bovins. Le résultat des enchères est plutôt satisfaisant. Une quinzaine d'éleveurs ont répondu présent et 80% des animaux ont été vendus, du Limousin et du Belmont Raid, mâles et femelles. Les enchères ont certes été moins hautes que l'an dernier, mais il y avait plus de bêtes proposées à la vente, ce qui a permis d'équilibrer les recettes. Un signe plutôt encourageant pour Alexandre Etuvé, le responsable de la station d'élevage de la Chambre d'agriculture et de la pêche à Nessadiou.
Notre budget qui a été voté est en baisse par rapport à 2024 de 12%. Alors ça paraît pas énorme.
Voilà, on entendra ça s'il s'agit du directeur de l'IAC qui était notre invité ce matin. On va tout de suite retrouver le responsable de la station d'élevage de la Chambre d'agriculture et de la pêche à Nessadiou. Voilà, on va se retrouver. Donc tout de suite, on l'écoute.
La Chambre d'agriculture nous a par exemple écrit.
Voilà, alors on va marquer une petite pause dans ce journal. On se retrouve dans un instant, le temps de tout remettre dans l'ordre. Et on repart pour la suite de ce journal dans un petit instant.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Samedi 29 et dimanche 30 mars à 18h, venez découvrir comment rire et être écolo. Un texte de Rémi DeVos, écrit pour le théâtre, sur les bassines d'eau. Des jeunes investis prêts à en découdre pour toutes les bonnes raisons du monde. Ne ratez pas La Guerre de l'eau, le samedi 29 et dimanche 30 mars à 18h au Théâtre de Lille. Réservation sur ticket.nc. Rendez-vous au Théâtre de Lille.
Ah, ces assurances. J'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple. Fais comme moi. Va chez AXA, agence Ixone à Magenta, à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA, agence Ixone, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
La suite d'Infomag, on retrouve Jean-François Bodin.
Oui, voilà, tout est remis dans l'ordre. On va donc repartir à Nessadiou, où la Chambre d'agriculture et de la pêche organisait donc sa vente annuelle de bovins avec de bons résultats, nous a dit Alexandre Etuvé, qui est donc responsable de cette station d'élevage.
Donc cette année, on a eu pas mal d'éleveurs présents du nord et du sud. On a eu des éleveurs de Paume jusqu'à Boulou-Paris. Donc c'est toujours agréable de voir que notre vente est toujours attendue par les éleveurs du territoire. Les vaches limousines ont été vendues au prix de 200 000 francs. C'était donc des vaches pleines, gestantes de Limousin. Et avec des taureaux qui ont été vendus et également mis à prix aux alentours de 350 000 francs, avec un taureau Belmont Raid qui a eu une enchère à 600 000 francs. Donc une belle enchère pour ce magnifique animal. Plutôt satisfait de la journée. On voit que derrière, ça a un intérêt puisque les éleveurs répondent toujours présents. Donc c'est vraiment notre objectif principal, c'est de pouvoir produire des animaux qui répondent à la demande de nos agriculteurs. Et donc ça veut dire que notre travail est du coup bien compris et qui est en adéquation avec la demande des professionnels.
Et cette vente de bovins, rappelons-le, est organisée chaque premier trimestre de l'année. Les éleveurs pourront récupérer leurs bêtes à partir du 2 avril. L'IAC fonctionne lui aussi en mode dégradé. L'Institut agronomique calédonien, créé en 1999, est un établissement local de recherche et il est financé à 40% par l'État. Le reste étant assuré par les collectivités calédoniennes. Comme tous les établissements publics, il est impacté par la situation économique de la Nouvelle-Calédonie, nous a dit son directeur, Laurent Lhuillier, qui était notre invité ce matin à 7h30, au lendemain de la réunion du conseil d'administration de l'IAC.
Notre budget qui a été voté est en baisse par rapport à 2024 de 12%. Alors ça paraît pas énorme, mais en fait il faut regarder sur plusieurs années, parce que c'est pas seulement depuis 2024 que nous sommes en difficulté. 2023-2024 déjà, la baisse était de 17%. Et sur les 5 dernières années, parce que ça a commencé fortement depuis la Covid en 2020, c'est 35% de recettes en moins de la part des collectivités. Donc c'est quand même très difficile.
Ces diminutions des recettes entraînent forcément une baisse drastique des dépenses pour l'IAC, avec notamment un effort sur la masse salariale. L'Institut va passer de 66 agents il y a 5 ans à une trentaine à la fin de l'année. Mais cette baisse des effectifs est compensée par l'investissement des chercheurs, souligne Laurent Lhuillier.
Automatiquement, on a quand même une activité en mode dégradé. Mais heureusement, les chercheurs sont des gens intelligents et dynamiques et passionnés. Face à cette situation depuis plusieurs années, ils réagissent en répondant à des appels à projets, justement, encore plus qu'avant. Et nous avons depuis 5 ans une augmentation chaque année du nombre de projets sur appel à projets, donc des financements extérieurs, en plus des financements que nous avons par nos membres. À titre d'exemple, nous étions à une quinzaine de projets et puis 20 millions de ressources en 2021. Et chaque année, on augmente. Et cette année, nous avons 36 projets avec 130 millions de recettes sur ces projets prévus en 2025.
L'IAC mène des actions de recherche en appui à la filière élevage, avec notamment la lutte contre la tique du bétail et la création d'un vaccin. Elle est également très impliquée dans la filière fruitière, un domaine dans lequel elle collabore avec la Chambre d'agriculture.
La Chambre d'agriculture nous a par exemple écrit il y a une quinzaine de jours pour nous signaler leur grande inquiétude vis-à-vis de la situation de l'IAC, et en particulier sur la station de Pau-Creux avec des arbres fruitiers qui sont en mauvaise santé pour beaucoup d'arbres malheureusement, parce que l'année dernière il a fait très sec. Nous n'avons pas eu les moyens d'arroser correctement toutes les parcelles, donc il y a des arbres qui sont très fatigués. J'espère que nous n'avons pas trop de pertes d'arbres. En tout cas, ceux qui sont en train de repartir grâce aux pluies là depuis quelques semaines reprennent de la vigueur, mais ne sont pas forcément en très bonne santé. Donc les prélèvements pour déboutures sont à faire de manière très parcimonieuse. Donc on risque de perdre malheureusement des variétés avec ces problématiques, et ça inquiète beaucoup le monde agricole. Nous avons une réunion prévue avec la Chambre d'agriculture pour en parler, parce que beaucoup d'arboriculteurs dépendent justement de la station de Pau-Creux pour leurs activités.
Et parmi les domaines de recherche de l'IAC, il y a aussi la santé des sols. Elle doit d'ailleurs restituer le 31 mars une étude sur les concentrations en métaux dans les aliments locaux. Une interview de Laurent Lhuillier à retrouver en audio et vidéo sur notre site internet. L'actualité dans la région, avec la Chine qui poursuit son implantation dans la région, et elle a fait passer quelques messages à l'occasion des 170 ans de présence chinoise à Fidji. La correspondance de Jean-Pierre Zajac.
Lors des célébrations de l'événement, l'ambassadeur de Chine aux îles Fidji, Xu Jian, a notamment encouragé la nouvelle génération de sino-fidjiens à continuer d'apprendre la culture chinoise tout en participant aux activités culturelles fidjiennes pour favoriser la compréhension mutuelle de leur patrimoine commun. Il a également souhaité l'introduction de vols directs entre la Chine continentale et la plaque tournante du transport régional que constituent les îles Fidji. Pékin a aussi financé un nouveau complexe sportif au Tonga, d'importants projets sécuritaires, routiers et portuaires aux îles Salomon, un nouveau palais présidentiel à Port Vila, de même que des projets miniers, forestiers et infrastructurels en Papouasie-Nouvelle-Guinée, où la présence chinoise est aussi importante dans le domaine de la pêche, du commerce et des télécoms. Le tout fait partie d'une large offensive de l'Empire du Milieu afin de s'imposer et de s'implanter davantage encore dans la région. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Avant d'ouvrir une page consacrée à l'actualité en métropole et dans le monde, signalons que le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, a annoncé la création de 7 nouvelles escouades de réserves côtières, dont une basée en Nouvelle-Calédonie. 5 seront implantées en métropole, 2 dans les Outre-mer, une première à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe et l'autre à Nouméa. Elles viennent s'ajouter aux 2 déjà existantes à Bayonne et La Rochelle. Ces escouades doivent appuyer les moyens déjà mis en œuvre par la Marine nationale pour renforcer la sécurité des côtes françaises. D'ici 2030, d'autres flottilles de réserves côtières devrait voir le jour sur le littoral métropolitain, et 6 escouades seront implantées en Outre-mer. 11h48, on se retrouve dans un instant pour une page consacrée à l'actualité en métropole et dans le monde.
Toute l'info en 3 lettres, RRB.
Envie d'un pick-up confortable et robuste ?
Bah, Isuzu D-Max !
Un 4x4 équipé au top pour toute la famille ?
Isuzu D-Max ! Le Isuzu D-Max double cabine 150 chevaux 5 places est pour vous à seulement 3 690 000 francs. Venez l'essayer et découvrez aussi la série limitée Aito.
Isuzu au village automobile PK4 Nouméa.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
RRB, pour être les premiers et les mieux informés.
L'actualité nationale et internationale, c'est la suite d'Infomag. On retrouve Jean-François Baudin.
Volodymyr Zelensky à l'Elysée. Le président ukrainien a fait une escale en France pour s'entretenir avec Emmanuel Macron. Rencontre à la veille d'un sommet international sur les garanties de sécurité à l'Ukraine. Lors de leur entretien, Emmanuel Macron a affirmé à son homologue que l'aide de la France allait se poursuivre. Arthur Delaborde pour Europe 1.
La France restera aux côtés de l'Ukraine face à l'agresseur russe. Un message réaffirmé face à Volodymyr Zelensky par Emmanuel Macron, qui débloque une nouvelle aide militaire de 2 milliards d'euros.
Et nous avons préparé une aide supplémentaire avec des missiles anti-chars Milan, des moyens de défense aérienne. Pour tenir sur le front, les armées ukrainiennes recevront également des blindés VAM, des chars AMX-10RC, mais également de nombreuses munitions, dont certaines téléopérées ou des drones. Et ce soutien sera complété également par des productions d'équipements en Ukraine.
Le président ukrainien insiste en particulier sur la nécessité de maintenir les sanctions européennes contre Moscou.
Les sanctions à l'encontre de la Russie doivent rester en vigueur et doivent se renforcer pendant que l'occupation russe durera.
Et là encore, Emmanuel Macron vient au soutien du président Zelensky et estime qu'il est beaucoup trop tôt pour évoquer évoqué la levée des sanctions. Or, Vladimir Poutine en fait une condition immédiate pour respecter l'accord de trêve en mer Noire annoncé ces dernières heures par Washington.
Les pourparlers pour l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu se poursuivent. L'Ukraine appuie la proposition des pays européens de déployer des troupes de maintien de la paix en cas de cessez-le-feu, ce que refuse toujours pour l'instant Moscou. C'est un déplacement qualifié d'historique. Jusqu'alors persona non grata en Israël, Jordan Bardella et Marion Maréchal sont à Jérusalem, où ils doivent participer à un colloque sur l'antisémitisme. À son arrivée en Israël, Jordan Bardella a affirmé que le Rassemblement national était un bouclier pour les Français de confession juive et un allié d'Israël dans la lutte contre le terrorisme islamiste.
Ce qui s'est passé ici le 7 octobre rappelle le mode opératoire que nous avons connu en novembre 2015. Et je crois plus que jamais à l'impérieuse nécessité d'unir nos voix, d'unir nos forces face au terrorisme islamiste.
Ce déplacement est critiqué par certaines associations juives en France, mais le ministre israélien de la diaspora, Amirai Shikli, confirme que Jordan Bardella et Marion Maréchal ont été invités par le gouvernement Netanyahou.
Ce que Jordan comprend, ce que Marine Le Pen comprend et que nous comprenons tous ici, c'est que la principale menace, pas seulement pour les Juifs, pas seulement pour les Français, mais pour toute la civilisation occidentale, c'est l'islamisme radical. On ne parle pas des musulmans, mais de l'idéologie des frères musulmans, qui est l'idéologie du Hamas.
Et en arrivant à Jérusalem, Jordan Bardella s'est rendu au mémorial Yad Vashem, dédié aux victimes de la Shoah. En métropole, garde à vue prolongée de 24 heures dans l'affaire de la disparition du petit Émile dans le village du Vernet, dans les Alpes de Haute-Provence. C'était en juillet 2023. Ses grands-parents maternels, un oncle et l'une de ses tantes ont été placés en garde à vue pour homicide volontaire et recel de cadavres. Garde à vue prolongée de 24 heures et à l'issue, ils seront soit relâchés, soit déférés devant un juge. Et puis le procès de Gérard Depardieu se poursuit. L'acteur de 76 ans comparé pour le troisième jour consécutif devant le tribunal correctionnel de Paris, accusé d'agression sexuelle sur un tournage par deux actrices. Il nie toujours être un agresseur, mais après le témoignage de l'une des deux plaignantes, il a reconnu être vulgaire et grossier. Le compte-rendu d'audience avec Jean-Baptiste Marty.
Franche devant les yeux, la plaignante s'avance timidement à la barre et livre sa version des faits. « Il m'a mis la main aux fesses. Touché ou palpé ?» interroge le président. « Touché à trois reprises, » répond la jeune femme en mimant le geste. À 2 mètres derrière elle, assis sur un tabouret surélevé, Gérard Depardieu nie les faits. « Je ne suis pas un toucheur, ni un violeur. Une agression sexuelle, c'est plus grave que ça, » lance-t-il. De quoi agacer maître Claude Vincent, avocate de la jeune femme.
« Ma cliente n'est pas une menteuse. Je vous laisse apprécier le fait que quelqu'un qui soit mis en examen pour des faits de viol, renvoyé devant un tribunal pour agression sexuelle, à ce jour ne soit toujours pas capable de qualifier ce qu'est une agression sexuelle. »
D'une voix goguenarde, Gérard Depardieu concède « Oui, je suis un vulgaire, un grossier, un ordurier, mais je respecte les gens, je ne vais pas m'amuser à humilier ou à toucher, je n'aime pas ça. » Et il poursuit d'une voix un peu plus basse. « J'avais demandé de ne plus faire venir de jeunes filles pour me chercher. J'avais demandé des garçons parce que je choque. » Le président est intrigué. « Mais qu'est-ce qui choque ? Mes mots !» rétorque l'acteur qui dit être de l'ancien monde.
Il est 11h53, la dernière pause de ce journal. Ensuite, on voit l'actualité sportive et on se retrouvera pour les Jeudis de l'économie.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Pour vous, comme pour nous, il n'y a pas de jour sans l'OPT sur Radio Rythme Bleu. Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main.
Entreprises, cabinets juridiques, collectivités, vous souhaitez être lu, être vu, confiez vos annonces légales au site internet rrb.nc. Contact annonceslegales@rrb.nc ou au 25 46 46.
Tout le sport en trois lettres, RRB.
L'actualité sportive, on retrouve Jean-François Baudin.
Oui, on va commencer par le tennis et cette super perf d'Arthur Fils qui a renversé le numéro 2 mondial Alexander Zverev en 8e de finale du Masters 1000 de Miami, Léana Colombo.
Et oui, une victoire importante dans la jeune carrière du numéro 1 français qui valide ainsi son billet pour les quarts de finale. Souffrant du dos après un set et mené 3-1 dans la dernière manche, le tricolore 18e au classement ATP a su maîtriser ses nerfs pour remporter le match. Victoire en 2h, 3-6, 6-3, 6-4. titre. Ce troisième succès de sa vie contre un top 5 mondial permet aussi à Arthur Fils de devenir le troisième français à enchaîner les quarts de finale à Indian Wells et à Miami après Yannick Noah en 1987 et en 1989 et Gaël Monfils en 2016.
Du football avec la Ligue des Champions féminine et l'Olympique lyonnais s'est imposé largement sur le Bayern Munich et file en demi-finale.
Après leur victoire au match aller 2-0, les Lyonnaises avaient déjà un peu d'avance, mais qu'importe avec leur victoire ce matin à domicile. Elles se sont largement imposées sur le score de 4-1. Pourtant, l'OL n'a pas livré une grande performance, surtout en première période. Les Fénotes étaient même menées 1-0 à la mi-temps, mais elles sont revenues transformées en seconde période avec un but marqué 20 secondes après le retour des vestiaires. En demi-finale, l'OL retrouvera Arsenal qui a battu le Real Madrid ce matin.
Et puis on va terminer avec le cyclisme et le nouveau défi de Tadej Pogacar. Le Slovène a annoncé qu'il participerait cette année à la Reine des Classiques Paris-Roubaix. Il se risque donc sur les pavés du Nord. Cyril de la Morinerie pour Europe 1.
Tadej Pogacar va découvrir l'enfer du Nord, l'une des courses les plus difficiles au monde avec ses 6000 pavés. La Reine des Classiques est plutôt réservée aux gros gabarits, mais le Slovène de 26 ans, physique plus frêle, est un coureur ultra complet. Pogacar, triple vainqueur du Tour de France, a également remporté plusieurs monuments, dont le Tour des Flandres. Le retrouver sur les pavés du Nord sera un véritable événement, confirme Bernard Thévenet, ancien vainqueur du Tour de France, joint par Europe 1.
C'est rare, surtout avec l'ambition de l'emporter. Paris-Roubaix, dans le calendrier, c'est pas tellement bien situé par rapport au Tour de France. Ce n'est pas du tout la même chose que de monter un col, par exemple. C'est un exercice tout à fait différent qui nécessite un entraînement bien différent de celui du Tour de France. Et il a des dons vraiment surnaturels, donc il peut envisager de l'emporter à Roubaix, mais il y a quand même de sérieux candidats en face.
Lors de ce prochain Paris-Roubaix, le cycliste slovène va notamment retrouver le néerlandais Mathieu Van Der Poel, double vainqueur sortant. En tout cas, si Pogacar remporte la Reine des Classiques, il entrera un peu plus dans la légende.
Voilà pour la page sport qui vient mettre un terme à ce journal.